La bibliothèque orbitale, épisode 17. Résumé de l'épisode précédent. Les meilleures choses ont une fin, et pour Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, les vacances s'achèvent. Le temps est venu pour lui de remiser tongs et treillis à fleurs dans l'armoire, et de retrouver ses activités normales, son vaisseau spatial, le Dorifor consciencieux, et son armement ultra perfectionné, armement qui lui permet de défendre et d'assurer la suprématie de l'humanité aux quatre coins de l'univers. De son escapade jusqu'à la Côte d'Azur, Pitou a ramené un teint râlé, quelques photos de coucher de soleil sur la Méditerranée et le souvenir de merveilleux moments passés à massacrer des hordes de touristes mutants, à détruire au lance-flammes des campings entiers de vacanciers radioactifs et à étrangler avec leur propre bouée d'orale exploratrice quelques bambins braillards dont les cris avaient eu le malheur de perturber son farniente. Ah, les vacances! Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, lui aussi victime de soudaines bouffées nostalgiques, se remémore ses 15 ans, ses premières cuites à la tourtelle, ses vieux 33 tours craquants de heavy metal et ses films de science-fiction post-apocalyptique français qui foutaient déjà la honte à l'époque. Dans les années 80, en matière de SF post-apocalyptique et de sous-Mad Maxerie, les Italiens furent les rois. Ils ne furent pourtant pas les seuls à s'adonner au genre. Les traqués de l'an 2000 en Australie, le camion de la mort en Nouvelle-Zélande, Survival Zone en Afrique du Sud, Metal Storm aux États-Unis, les films ont continué de fleurir un peu partout sur le globe, dans la foulée de la sortie de Mad Max 2 en 81 et de Mad Max 3 4 ans plus tard. À ce petit jeu, le principal concurrent de l'Italie fut les Philippines, où a été produite une bonne dizaine de post-nukes. A lui seul, le réalisateur Sirio Santiago en a tourné plus d'une demi-douzaine. Striker en 84, Les Roues de Feu en 85, Les Exterminateurs de l'an 2000 et Les Nouveaux Conquérants en 86, The Sisterhood en 88, Dune Warriors en 90 et Apocalypse Warriors Raiders of the Sun en 92. Et puis, il y a la France. Non, je ne parlerai pas de Malville, l'adaptation du roman de Robert Merle sorti en 81, ni du Dernier Combat, le premier film de Luc Besson en 83. Fidèle à mes principes et à mes partis pris cyniques et railleurs, j'aborderai le post-apocalyptique français par sa face la plus risible, en me focalisant sur ses deux nanars les plus lamentables, Diesel et Terminus. Sorti dans les salles durant l'été 85 et réalisé par l'américain Robert Kramer, Diesel peut se targuer d'un casting 3 étoiles. Richard Boringer, Roland Blanche, Agnès Soral, Nils Arestrup, Magali Noël, sans oublier Laurent Terzieff, franchement on a vu pire. Et dans le rôle du héros, Gérard Klein. Non, pas lui, l'autre. Gérard Klein en héros madmaxien, c'est au moins aussi judicieux et pertinent que Mimi Mati en Lara Croft ou Danny Boone en Batman. Et histoire de mettre tous les atouts de son côté, il est en outre affublé d'une coupe de cheveux capillairement post-apocalyptique, frisée sur le dessus et très long sur la nuque, le genre de coupe que, même à l'époque, le plus germanique des défenseurs du Borussia Mönchengladbach n'aurait jamais osé afficher. Il y a d'ailleurs un véritable problème capillaire dans ce film. Agnès Sorel, avec sa coupe au bol surmontée d'une petite houppette à la brosse, a l'air d'un artichaut. Et Nils Arestrup, après avoir subi un brushing à proximité d'un réacteur d'Airbus, ressemble à une fleur de pissenlit. Difficile dans ces conditions de camper un tueur crédible. Bien évidemment, les costumes sont assortis aux coupes de cheveux, et l'on assiste tout au long du film à un défilé de mode particulièrement vomitif, à base de slips en vinyle, de soutien-gorge en plastique transparent et de caches à canaris utilisés comme masques. Mais de quoi est-ce donc que cela cause-t-il, me demanderez-vous dans votre français approximatif? Faites un effort, merde. Nous sommes dans un futur post-apocalyptique indéterminé, où une société totalitaire souterraine s'est développée. Agnès Sorel interprète une prostituée témoin d'un meurtre. Pas de bol pour elle, le tueur est le frère de l'un des hommes les plus puissants de ce monde, et après avoir témoigné contre lui, elle doit s'enfuir au plus vite. Heureusement pour elle, elle va tomber sur Gérard Klein, à bord de sa dépanneuse, mulette et chemise de bûcheron au vent, qui va l'aider à échapper au tueur lancé à ses trousses. N'espérez pas de cascades spectaculaires et de scènes d'action pétaradantes dans Diesel. En matière de poursuite motorisée, le moment le plus palpitant est une course entre deux Citroën Méhari lancées à 20 km/h dans une vieille mine. Wow, ça décoiffe. Enfin, ça décoiffe surtout Nils Arestrup, en raison de ses problèmes capillaires précédemment évoqués. Évidemment, même si Diesel espère surfer sur la vague du succès de Mad Max et consorts, il est hors de question ici de jouer le jeu de la série B. Aux scènes d'action, les scénaristes Serge Leroy et le romancier Richard Morgiev préfèrent les longs discours pédants sur la vie, la mort, l'amour et la liberté que les acteurs seront chargés de déclamer en prenant un air aussi torturé que possible. Le résultat est aussi prétentieux que navrant, et voir des comédiens comme Roland Blanche, Richard Boringer ou Magali Noël obligés de débiter des âneries pompeuses à longueur de scène est un spectacle des plus navrants. Bref, Diesel est la caricature même du film de science-fiction à la française, un condensé de conneries sentencieuses scandées avec emphase, filmé avec le dynamisme d'un journal régional de France 3 Lorraine, et moche comme un teckel pelé affublé d'un bec de lièvre. Présenté hors compétition au Festival d'Avoriaz de 1987, Terminus, réalisé par un certain Pierre-William Glenn, a fait beaucoup rire les quelques téméraires assez inconscients, ou bourrés, ou drogués, ou les trois à la fois, pour aller voir Johnny Hallyday faire son Mad Max de sous-préfecture. Ah, Johnny, le cheveu teint en blanc et affublé d'une main métallique, il avait fait la une de toute la presse française avec son look de rocker camionneur post-apocalyptique, ce qui n'empêcha évidemment pas le film de faire un four monumental au box-office quelques mois plus tard. Dire que Johnny Hallyday joue dans Terminus est probablement exagéré. Johnny Hallyday ne joue pas dans Terminus. Il prend la pause, il marmonne du bout des lèvres quelques lignes de dialogue dans un anglais approximatif, qui obligera la production à post-synchroniser sa prestation dans la version anglaise du film, et il laisse son regard bleu se perdre dans le vide, ou alors c'est qu'il roupille les yeux grands ouverts. À ses côtés, Karen Allen, la partenaire d'Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, s'en tire un peu mieux, puisqu'elle meurt au bout d'une demi-heure. Avant cela, elle aura tout de même réussi à faire une démonstration de karaté que même la plus arthritique des nonagénaires de la maison de retraite du Dernier Repos à Saint-Eugénie-sur-Deuil pourrait reproduire sans mal. Ce grand moment d'action rhumatisante n'en est pas moins l'un des plus spectaculaires du film. Terminus compte pourtant quelques poursuites automobiles, mais elle figure certainement parmi les plus mal filmées et montées de l'histoire du cinéma mondial. Et même, dans certains cas, le réalisateur ayant probablement oublié de mettre sa caméra en marche au moment crucial, les cascades sont remplacées par des reconstitutions informatiques assez sommaires en 3D approximative. Même pour l'époque, le résultat pique les yeux. Deux mots sur l'histoire tout de même. Il y est question d'une course à travers une Europe post-apocalyptique, course à laquelle participe un seul et unique véhicule, monstre, un camion intelligent, et course organisée par un petit génie élevé en laboratoire par des scientifiques bizarres. N'insistons pas, l'intrigue est à ce point poreuse qu'il n'est guère étonnant que le film prenne l'eau de toutes parts. À toutes ces qualités, il faut enfin ajouter la prestation de Jürgen Prochnow, acteur allemand qui a fait une jolie carrière à l'international, et qui interprète ici un triple rôle, un routier lancé à la poursuite de Johnny, un scientifique blafard recalé au casting de la famille Adams, et un savant fou auquel une perruque rouge fluo et un maquillage approximatif donnent des allures de Mylène Farmer en pleine décomposition. C'est sur ces deux chefs-d'œuvre français, à l'origine d'une mystérieuse épidémie de cataracte et de décollement de la rétine chez les critiques de cinéma de l'époque, que s'achève notre petit tour estival de la science-fiction post-apocalyptique. Bien entendu, si à la suite de l'écoute de cette série de podcasts, quelques auditeurs auraient l'idée saugrenue d'aller fouiller dans ces stocks de vieilles VHS et de regarder l'un ou l'autre des films évoqués au cours des dernières semaines, la Bibliothèque Orbitale et les éditions du Bélial déclinent toute responsabilité quant aux conséquences médicales possibles d'un tel visionnage. Vous voilà prévenus.